Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous allons vous offrir un nouveau numéro de votre magazine. Sachez pour mémoire que toute la collection est à votre disposition sur l'application RFI Pure Radio, par exemple. Ethnologue, résistante, prisonnière, déportée, femme engagée, spécialiste de l'Algérie des Berbères, dénonciatrice du totalitarisme nazi et stalinien, Germaine Tillion fut tout cela à la fois. Cette femme, qui a vécu un siècle, a en effet, durant 100 années, mené plusieurs existences. Nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde, disait-elle, ou bien comprendre d'abord, sauver ensuite. Ce sont deux phrases de Germaine Tillion, extraites d'entretiens, qui en disent long sur cette femme hors du commun qui repose désormais au Panthéon depuis le 27 mai 2015. Nous allons parler d'elle grâce à une biographie passionnante fouillée que lui consacre notre invitée Lorraine Demeaux. Germaine Tillion, une certaine idée de la résistance, c'est son titre. Espiègle et sérieuse, d'une grande honnêteté, patriote et universelle, jamais sectaire, elle incarne un humanisme lumineux qui puise dans les souffrances éprouvées sa détermination. Voilà ce qu'écrit Lorraine Demeaux. Nous allons le constater, prendre une leçon de courage et de lucidité en quelque sorte dans ce nouveau numéro du magazine Idée que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Lorraine Demeaux.
Bonjour.
Vous êtes agrégée et docteur en histoire contemporaine et vous écrivez d'emblée dans ce livre que j'ai beaucoup aimé, à propos de Germaine Tillion, « Sa vie dessine un trait de lumière sur la tapisserie de notre histoire contemporaine ». La phrase est jolie et c'est elle qui était belle aussi. C'est, comme on dit aujourd'hui, une belle personne.
Ah oui, exactement. Le terme lui va très bien. C'est vraiment la trajectoire d'une femme à travers le XXe siècle. Et ce siècle, on le sait, a été très riche en épreuves. Et malgré tout, sa vie, sa biographie nous montre qu'à travers les épreuves, on peut être lumineux.
Et les épreuves, c'est-à-dire la guerre, c'est-à-dire le totalitarisme, la résistance, l'Algérie, effectivement, c'est une page d'histoire qu'elle a écrite aussi.
C'est une page d'histoire, elle est plongée dans les événements, ces différents événements, face auxquels il va falloir faire des choix, comme tout individu, quand le contexte devient un contexte inattendu, dur. Et ces choix, elle les fait d'une façon, je trouve, particulièrement passionnante, parce que c'est quelqu'un qui va toujours chercher à comprendre. Et donc, quand on fait le bilan face à la guerre, la question de la résistance, face à l'Algérie, la crise algérienne qui divise tellement les Français, face au totalitarisme et, par exemple, au communisme, face à ces sujets tellement complexes, ses positions à elle sont toujours liées à la connaissance qu'elle a accumulée, au choix et à la volonté, surtout, de rester humaine par-dessus tout, c'est-à-dire être au plus près de l'intérêt des individus.
Donc elle est née, elle a une longue vie, je le disais, un siècle. Elle est née le 30 mai 1907, elle est décédée le 19 avril 2008. Et donc c'est une vie longue, outre le fait que c'est une vie riche également. Alors on va parcourir cette vie passionnante avec ce que vous appelez une jeunesse idéale.
Oui, ça m'a frappée. Quand j'ai commencé à mieux connaître et à mieux comprendre son environnement familial, c'était une jeunesse idéale parce qu'au fond, elle avait des parents qui étaient extrêmement aimants avec leurs deux filles, qui voulaient surtout que leurs filles apprennent et comprennent la beauté du monde, reçoivent le goût de l'effort intellectuel. C'était pas si courant, hein, dans les années 20, les années 30, que l'éducation des filles soit ainsi axés sur finalement l'épanouissement intellectuel de leur personnalité future, pour leur donner aussi une forme d'indépendance. Et les relations qu'elle avait avec, bon, son père est mort quand elle avait à peu près 18 ans, elle est restée très pudique à cet égard, mais il était aussi une figure, c'était un musicien, et il aimait prendre des photographies, il était rédacteur, enfin il a créé la collection des Guides Bleus. Et sa mère a repris le flambeau, elle travaillait, c'était un couple qui travaillait ensemble avec une partition des tâches assez égalitaire.
Donc il rédigeait des guides.
Il rédigeait les Guides Bleus, oui. Et c'est comme ça que Germaine Tillion a été formée déjà au goût de l'écriture et puis aussi du voyage et du voyage culturel et intelligent.
Et sa mère, Émilie, semblait être un personnage incroyable.
Alors, Émilie Tillion est clairement une personnalité qu'on découvre à travers la biographie de sa fille. Et c'est sans doute le témoignage pour rendre compte de sa... elle aussi, de sa lumière, de son intelligence, de son originalité. C'est une femme qui a été donc une femme, une écrivain, qui a été indépendante, qui a élevé ses filles de cette façon intelligente, qui était très soucieuse aussi de la justice et qui, au fond, elle aussi, elle n'était pas conventionnelle, tout en étant, au fond, assez attachée à des formes de tradition, et puis résistante aussi, déportée à Ravensbrück, et elle va mourir à Ravensbrück en 1944. Elle est sélectionnée, puis gazée et assassinée par les nazis.
Ce qui est sans doute la plus grande douleur de Germaine Tillion, la disparition de sa mère dans ces conditions-là en plus.
La disparition de sa mère, alors qu'elle-même était aussi dans ce camp, mais à ce moment-là à l'infirmerie, ça a été pour elle une épreuve... qu'on pourrait dire insurmontable, même si Germaine l'a surmontée d'une certaine façon, parce que évidemment qu'elle a elle-même a survécu, puis elle a poursuivi, elle est restée fidèle à l'esprit de sa mère, mais elle a toujours rendu hommage. Et on se rend compte que dans l'immédiate après-guerre, autour d'Émilie Tillion, tous ceux qui l'avaient croisée ou rencontrée ont témoigné de sa personnalité très inspirante et très, très forte.
Idée. Alors revenons aux années 20, aux années 30. Germaine suit alors des cours à la fois d'histoire de l'art et d'anthropologie.
Alors elle commence avec un cursus plutôt classique, celui de l'histoire de l'art, archéologie, histoire de l'art. Et puis finalement, il y a cette matière anthropologie, ethnologie qui apparaît. Et puis ça va être le développement à la fois de l'Institut d'ethnologie et puis du Musée de l'Homme. Et elle est embarquée dans cette matière qui est en plein développement, en plein renouveau. Et elle va avoir la chance immense d'être formée par des maîtres exceptionnels.
À commencer par Marcel Mauss.
Alors Marcel Mauss est aussi une des figures qu'on peut découvrir à travers Germaine Tillion, parce que ça a été son maître auquel elle a rendu hommage tout au long de sa vie. Marcel Mauss est une personnalité de ce milieu universitaire, savant, intellectuel de Parisien des années 20 et 30, qui va marquer des dizaines et dizaines d'étudiants. Par exemple, Lévi-Strauss aussi, voilà. Et il est admirable dans la manière dont il dispense son savoir qui est encyclopédique et tourné vers l'ailleurs, vers les autres.
Et lui était très attaché à Germaine, en qui il voyait une étudiante prometteuse.
Alors, il est très clair qu'à partir du moment où il va obtenir les premiers financements pour une bourse pour Germaine, qui va partir sur le terrain en 1934, à partir de là, il suit de très près ses travaux et il était absolument impressionné par sa capacité à avoir fourni un travail le plus complet qui soit sur les Berbères de Lorès. Il a admiré à la fois la manière dont elle a conduit son terrain de façon assez solitaire et courageuse, et la manière dont elle était aussi capable ensuite de mettre en forme les choses, de rédiger ce travail qui finalement ne sera pas abouti.
Vous l'avez dit, Lorraine Demeaux, elle va partir en mission en 1934. Après avoir fait un séjour en Allemagne, à une date clé, 1933, elle va voir l'élection, aux élections législatives des nazis, d'Hitler, donc l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Ensuite, elle va donc partir en mission sur ordre quasiment de Marcel Mauss. Écoutons-la, on va l'écouter dans plusieurs extraits d'un entretien avec Jean Lacouture, qui connaissait bien Germaine Tillion, qui a travaillé sur son œuvre. Un entretien sur France Culture dans l'émission À voix nue en 1997.
Je pars en 1934. Nous sommes deux jeunes femmes, jeunes filles, Thérèse Rivière, qui est donc la sœur de Georges-Henri Rivière, et moi-même. Mais la pauvre Thérèse a été malade très vite, ce qui fait que je me suis trouvée très vite seule.
Et vous avez piqué droit sur les Aurès ou bien
Nous étions déjà dans l'Aurès,
oui.
Quand Thérèse est tombée malade. Mmh. Et par conséquent, j'ai fait très vite l'expérience de la solitude dans un milieu où il n'y avait aucun Européen.
Depuis longtemps ou bien il n'y en avait jamais eu. Vous avez été la première
Il y avait une fois par an un médecin qui venait vacciner les enfants, mais qu'on ne voyait pas, qui arrivait. Il y avait une espèce de petit bâtiment dans lequel venait le médecin une fois par an vacciner les enfants. Les femmes ne le voyaient pas. C'était les hommes qui allaient porter les gosses à vacciner. Et les femmes n'avaient jamais vu d'Européens de leur vie.
Il y avait bien un administrateur colonial.
L'administrateur était à Arris. Moi, ouais. J'étais à 14 heures de cheval d'Arris.
Donc c'est le début d'une vie d'aventure. Elle va travailler dès lors parmi les Chaouya, qui constituent une ethnie berbère.
Alors les Chaouya sont en effet la population avec laquelle elle va vivre et qu'elle va étudier. Donc une ethnie de l'Aurès, ce massif montagneux.
Elle dit l'Aurès, effectivement. On dit en général, on parle des Aurès. Elle dit l'Aurès.
Oui, les Aurès, ça vient du fait que, en fait, comme c'est très compartimenté, comme souvent les massifs montagneux, il y a tellement d'ethnies et de réalités à l'intérieur de cette région qu'on a aussi adopté cette désignation plurielle, les Aurès, mais elle dit toujours l'Aurès. Et ces missions aurésiennes sont aussi le compagnonnage auprès de ces Chaouya dont elle va apprendre la langue, avec lesquels elle va partager le quotidien. Les Chaouya sont une tribu semi-nomade, donc ils vivent une partie de l'année dans des terrains favorable à un peu d'agriculture et un peu d'élevage. Et puis, quand il fait trop chaud, ils remontent dans la montagne. Et là, donc, l'élevage se poursuit. Mais c'est des conditions qui sont héritées d'un temps très, très long. Et Germaine Tillion va étudier la tribu, les relations familiales, mais aussi leur économie, leur organisation politique, va étudier les relations avec l'administration, et elle va finir par être l'une d'entre eux.
Elle va y séjourner assez longuement, de novembre 1934, donc à mai 1937, donc elle va avoir le temps de s'immerger, et comme elle aimait le faire, avec une vie d'aventure à cheval. Enfin bon, il faut lire votre livre pour comprendre. Et vous faites un moment le bilan de son travail. Je vous cite. 800 objets accompagnés de leurs fiches, 5000 photographies légendées, 800 mètres de films, 45 enregistrements de chants avec leur transcription phonétique et leur traduction, un herbier de 85 plantes, du matériel de fouilles néolithiques, sans compter la généalogie masculine et féminine, rassemblée par Germaine et perdue à Ravensbrück. Les autres matériaux sont aujourd'hui éparpillés dans des réserves d'institutions parisiennes, Quai Branly, par exemple. Donc elle a vraiment travaillé. Hein.
Ah oui, la collecte. Alors il faut rendre hommage aussi à Thérèse Rivière, hein, puisque elle, dans cet extrait, elle évoquait la maladie de Thérèse Rivière. Mais en réalité, Thérèse Rivière a quand même eu la possibilité, elle aussi, de travailler. Mais elles se sont un peu séparées et ont travaillé dans des, Elles étaient en contact, mais elles ont travaillé dans des espaces un tout petit peu différenciés. Et cette collecte, qui était un peu l'état d'esprit de ces missions, de ces grandes missions d'ethnologie des années 1930, elles étaient parties avec une espèce de commande que leur avaient fait les géologues, les biologistes, les linguistes, etc. Et pour finir, donc il y a cette idée de revenir avec énormément de matériaux, mais aussi des matériaux pour le musée de l'homme ou pour le musée des traditions populaires, enfin bon, donc folklorique. Donc il y avait aussi cette envie de faire connaître la richesse de ces populations au monde occidental. Il y a cette manière d'envisager l'ethnologie. Donc le travail, et puis le travail d'enquête, c'est-à-dire le fait qu'elles rencontrent en permanence les uns et les autres, qu'elles leur posent des questions, qu'elles apprennent à travers leur biographie, celle de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Elle va retracer en réalité ce qu'on appelle la généalogie, mais au fond c'est l'histoire de cette population.
Et elle a écrit des livres, enfin des travaux que l'on peut lire encore aujourd'hui sur cette expérience.
Alors, son expérience a finalement abouti à la rédaction du Harem et les Cousins, son premier grand ouvrage sur, alors qu'elle a élargi, on passe de l'Aurès au bassin méditerranéen en général, c'est plus vaste.
Qui est paru tardivement en 66.
Oui, parce que la vie de Germaine Tillion est semée d'obstacles et de détours avant de réaliser sa véritable vocation qui était celle d'ethnologue. Et puis, donc, ses écrits sont quand même nourris de toute façon de son expérience aurésienne, mais de fait, elle a perdu sa thèse et tous ses matériaux personnels, donc pas les herbiers qui sont conservés ou certains objets qui sont conservés aujourd'hui dans les réserves du Musée de l'Homme, du Quai Branly ou de d'autres institutions, mais elle a perdu ses propres matériaux intégralement à Ravensbrück.
Ce numéro d'idées consacré à Germaine Tillion avec notre invitée Lorraine Demeaux qui vient de lui consacrer une biographie. Nous sommes donc en 1937, Germaine Tillion revient de sa mission et elle devient en quelque sorte une personnalité intellectuelle à l'époque. À un moment clé, 1937, c'est par exemple l'ouverture du Trocadéro.
Oui, ces années-là hein, de Front populaire, de difficultés aussi pour la France avec la crise économique, enfin, etc., sont aussi décrites par elle comme des années de grand enthousiasme, de ferveur, et notamment autour du Musée de l'Homme. Ce musée du Trocadéro, qui est à la fois un lieu d'exposition, mais un lieu de recherche, un lieu de travail, et où, autour de Marcel Mauss ou du docteur Rivet, aussi de Rivière, on a ici une expérience à la fois scientifique et humaine très novatrice, très passionnante. Et donc, elle est embarquée dans un univers très dynamique. Et tout de suite, elle est identifiée, elle fait des conférences, elle donne quelques interviews de radio, etc. On voit que c'est quelqu'un qui a commencé déjà sa carrière.
Et elle commence sa thèse sur l'organisation sociale des Berbères de l'Aurès.
Oui, le projet...
Sous la direction de Mauss et de Massignon. Et
donc elle a
grand nom de l'ethnologie.
Voilà, elle a aussi finalement rencontré Louis Massignon, un orientaliste très important. Et Mauss et Massignon vont veiller sur ses travaux. Ils vont essayer d'obtenir pour elle à la fois des financements pour poursuivre sa mission, parce que quand elle se lance en 37 dans ce travail de thèse, elle se rend compte qu'en fait, il lui manque beaucoup de matériaux. Et donc, elle va obtenir, mais cette fois-ci, ce sera une mission financée par le CNRS qui vient d'être créée, et elle va repartir dans l'Aurès pour travailler sur cette organisation sociale des Berbères de l'Aurès. Le travail qu'elle met en place à la fois sur le terrain et quand elle est à Paris, d'articles ou de rédactions, est un travail qui aurait été sans doute un des ouvrages les plus complets sur le monde berbère.
Alors survient alors la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, Lorraine Demeaux, 1939, et la faillite, l'étrange défaite de 1940 à partir du 10 mai. Elle disait ceci, Germaine Tillon, « Une formation d'ethnologue et de sociologue ne pouvait s'accommoder de mensonges nazis. »
Oui, alors malheureusement, il y a d'autres ethnologues qui ont aussi développé des théories racistes, mais ce n'était pas l'idée au Musée de l'Homme et à Paris autour de Marcel Mauss. Non, elle a toujours considéré que l'ethnologie était aussi une manière de tolérance, d'altruisme. Et puis ensuite, il y a cette haute idée de ce qu'est l'être humain, de la dignité humaine. Et donc c'est absolument contraire à toute idée de racisme ou de discrimination. Et ça va être, c'est vrai, et ça va être aussi le point de départ de ce qu'elle aura ensuite appelé le réseau du Musée de l'Homme. Il y a effectivement une résistance qui veut combattre le nazisme, qui s'installe dans ce petit cénacle des savants.
Et on peut dire, Lorraine Demeaux, que Germaine Tillon a été une résistante de la première heure. Vraiment de la première heure, dès le printemps, l'été 1940.
Oui, elle fait partie de ces résistants, alors pas très nombreux, hein, parce qu'elle a une conscience très forte. Le discours du 17 juin, le discours de Pétain qui explique aux Français qu'il fait don de sa personne pour sauver la France, elle ne le perçoit pas du tout de cette façon. Elle le voit comme une affreuse nouvelle qui est celui de la cessation des combats. Et elle ne le supporte pas. Et ce qui fait qu'en fait, elle rentre tout de suite dans une logique de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, elle était d'abord en exode, puis ensuite le retour à Paris très vite au moment de l'armistice du 22-23 juin. Et là, elle est à Paris et tout de suite, elle réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire.
Je prends contact avec mon amie Yvonne Audon, qui est donc bibliothécaire au Musée de l'Homme. Et ça se passe avant l'évasion de Vildé. Vildé est encore prisonnier de guerre. Mais il s'évade comme des tas d'autres camarades et amis. Nous avons eu tout de suite des quantités d'évadés sur les bras. Alors il fallait premièrement les loger, deuxièmement les habiller, troisièmement leur faire des papiers et des faux papiers. Alors on a été tout de suite dans l'obligation de fabriquer des faux papiers. Quatrième obligation, faire passer en Angleterre les jeunes gens qui voulaient rejoindre De Gaulle. Et cinquième obligation, récupérer les Anglais, en particulier de la poche de Dunkerque. En réalité, c'est moi qui l'ai appelé Musée de l'Homme. En fait, c'est une série de groupes. En réalité, dans cette période tout à fait initiale de la première résistance, il n'y a pas encore de réseau ni de groupe. Il y a des quantités de petits groupuscules qui manquent de moyens, qui ont tous des choses à faire, mais qui n'ont aucun moyen de les faire, et qui sont par conséquent obligés de se raccorder 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4. Et c'est ça qui forme peu à peu des réseaux. Chaque fois qu'il y avait une série d'arrestations, un réseau se disloque et on forme un deuxième réseau. Continuellement, il faut reconstituer ce qui vient de se disloquer. Songez que les premières arrestations de notre groupe ont lieu en février 41. Mais entre août 40 et février 41, l'activité a été intense dans tout l'ensemble de nos groupes.
Donc Germaine Tillon a été résistante dès l'été 1940. Elle parle de la poche de Dunkerque, donc dès le début de la guerre en France, et ensuite ce fameux réseau du Musée de l'Homme.
Oui, elle décrit très bien ce qui est une nébuleuse, en fait, des réseaux divers et variés, qu'ensuite on a nommé le réseau du Musée de l'Homme, mais qui sont des petits groupes qui vont agir soit pour aider les évadés, leur faire passer la ligne de démarcation, leur donner des faux papiers. Et puis elle-même, elle va aussi avoir tout de suite, ce qu'elle ne décrit pas dans cet extrait, mais une activité auprès en particulier des prisonniers coloniaux, c'est-à-dire des soldats issus des colonies, des soldats français qui sont prisonniers, comme les autres prisonniers de l'armée française. Mais elle a une sensibilité immédiate, en sachant que ces prisonniers étaient encore plus maltraités, au fond, étant donné le racisme intégré à l'occupation allemande.
Donc elle va se développer son action dans la résistance jusqu'au moment Lorraine de Meaux, où elle est trahie par un prêtre.
Alors la trahison, elle le dit elle-même ensuite, hein, ça a été en fait l'immense majorité des arrestations et puis du coup des emprisonnements et puis aussi des assassinats, enfin des répressions. L'immense majorité sont des trahisons. Alors c'est un prêtre, mais elle dit elle-même, il était certes prêtre, mais il était surtout traître. C'est son analyse de la situation. C'est quelqu'un qui était de toute façon dans le mensonge complet. Il avait cet habit de prêtre, mais il était payé par la Gestapo et puis par l'Abwehr. Et il a cherché à rentrer en contact avec des chefs de réseau, des gens importants. Et finalement, il est tombé sur Germaine Tillion. Elle a tout de suite senti qu'il était quelqu'un d'un peu louche. Mais elle a pris des renseignements sur lui et de fait, il était vraiment prêtre à la Varenne, donc en plus une commune qui n'était pas très loin de là où elle habitait, à Saint-Maur-des-Fossés. Donc les renseignements pris n'ont pas permis pour elle de rompre toute activité avec lui. Et ce prêtre avait une utilité puisqu'elle devait faire évader les Vaumécourt de la prison de Fresnes, et il avait un contact à Fresnes parmi les gardiens. Et donc, ça lui paraissait utile. Mais en fait, ça a été une personnalité abjecte qui a entraîné son arrestation à elle et puis finalement d'autres membres du réseau.
Alors avant d'évoquer cet emprisonnement à Fresnes, à nouveau, je vous propose d'écouter un certain Tsvetan Todorov, le philosophe hélas disparu aujourd'hui, qui a beaucoup travaillé sur l'action, l'œuvre de Germaine Tillion. Écoutez un extrait de ce qu'il nous a dit alors, c'était dans Idée, donc en 2015, le 8 novembre 2015 précisément.
À ce moment, elle n'a aucun souci de vertu particulière ou de posture morale. Elle ne pense qu'à chasser l'occupant hors de son pays. Comme cela n'est pas possible, au moins il s'agit d'aider la résistance et le combat. Mais petit à petit s'introduisent d'autres tons qui sont précieux à mes yeux. Elle commence à observer qu'il faut essayer de résister sans pour autant haïr l'ennemi. Donc c'est un ennemi, oui, il faut le combattre, mais si possible sans haine.
Résister sans haïr.
Elle a eu cette capacité de ne pas se laisser emporter par des passions, par la haine, par des idées. Il y avait quelque chose chez elle elle avait toujours le sentiment qu'en fait, comme la vie est très mouvante et les circonstances sont mouvantes, l'individu fait pas toujours les bons choix. Et qu'en fait, il y a quelque chose, on n'est pas du tout dans le relativisme avec elle, mais il y a une dimension où elle ne veut pas juger ses contemporains. Il faut agir chacun à sa place et il y a des choses à faire sans haine, mais ensuite elle aura un grand sens de la justice et que les victimes doivent être défendues et que les coupables doivent être jugés.
Donc elle va être interrogée par la Gestapo après son arrestation à cause du traître, le prêtre traître, Lorraine de Meaux. Et elle va s'interroger, à un moment elle le raconte, et vous en parlez évidemment dans votre livre, vous la citez, et je vais lire cette citation. Germaine Tillion, donc au moment où elle est au siège de la Gestapo, voilà ce qu'elle dit. « J'ai entendu dire souvent, et dit moi-même, que celui qui reste neutre en présence d'un crime est aussi coupable que le criminel. En présence du crime immense de l'Allemagne en France, on devait agir. J'ai pensé cela et je l'ai dit, et je le pense et je le dis encore. » Mais soutenir une thèse morale, assis dans un fauteuil, en buvant une tasse de thé, est une chose, c'en est une autre que de se trouver dans un cachot, dont en principe on ne sortira que pour mourir, et de se dire que des êtres vivants, heureux, entourés de familles qui les aiment, vont subir la vraie mort après la vraie torture, parce qu'ils vous ont écouté, vous et vos édifiantes raisons.
Oui, ça c'est toute la nuance et l'esprit de Germaine Tillion qui est très bien contenu dans cet extrait. C'est en effet son sens des responsabilités. En fait, elle permet de comprendre que dans des situations de crise qui ressemblent aussi à une guerre civile, ce que la France va vivre en 40 est une division de la société française, du coup des familles, des proches, etc., qu'on est là face à des enjeux qui sont mortels. Et mettre sa vie en danger pour elle-même, ça va, mais avoir peut-être entraîné d'autres à mettre leur vie en danger, elle était, pour elle, ça a été une épreuve. Et elle n'a, évidemment, il n'y a pas une once de regret. Il était clair que cet engagement, il fallait le faire. Elle savait pourquoi elle le faisait. Beaucoup l'ont fait en conscience. Mais c'est une épreuve dans le sens où ça va entraîner, de toute façon, la mort, les difficultés, les divisions. Et elle n'a pas magnifié cette action. Elle a toujours défendu le rôle des résistants comme étant un point essentiel de la survie de la France et des idées françaises. Mais au fond, elle n'a pas magnifié parce que ça a été de toute façon aussi des moments très douloureux. Il y a quelque chose d'émouvant dans cette citation.
Après 14 mois de régime à Fresnes, d'emprisonnement à Fresnes, elle va être déportée à Ravensbrück, donc en Allemagne. Et il faut rappeler que sa mère aussi.
Alors ça, c'est le grand drame de Germaine Tillion, c'est que sa mère est arrêtée, en même temps qu'elle d'ailleurs, va être emprisonnée, mais elles ne sont pas déportées ensemble. Donc elle espérait quand même que sa mère ne serait peut-être pas déportée.
Et finalement, parce que sa mère faisait de la résistance aussi.
Oui, les activités de résistantes sont à la fois communes et diverses. C'est-à-dire qu'elles ont ensemble, elles vont par exemple cacher et abriter des évadés. Et ce sera à cause de cela que va justement être arrêtée et jugée et puis du coup déportée Émilie Tillion, sa mère, chez elle, dans leur maison de Saint-Maur-des-Fossés. Mais de toute façon, elle avait aussi sa propre activité de résistance, d'écriture, d'aide. Bref, elle était très impliquée, mais elle faisait ça à la fois ensemble et séparément. Quand elle voit arriver le convoi, un convoi dans lequel tout de suite on lui dit « Germaine, ta mère est là », pour elle, ça a été terrible. Parce que sa mère était âgée, d'imaginer sa mère plongée dans cet univers qu'elle avait déjà eu le temps d'apprendre à connaître. Un univers où, au fond, tout est douleur, tout est difficulté. Mais sa mère, elle, en revanche, réunie avec sa fille, elle était heureuse.
Donc, Ravensbrück, et le sort qui lui a été réservé était le sort qu'ont connu d'autres femmes, dont Geneviève de Gaulle. Et là, c'est une rencontre très importante.
Ah oui, dans le convoi de sa mère, il y a aussi une jeune femme, Geneviève de Gaulle, dont très vite, on va savoir qu'elle est la nièce du général de Gaulle. Et ça a été, pour les femmes résistantes, puisque Ravensbrück est le camp où sont internées les résistantes de toute l'Europe, et pour les femmes résistantes et les Françaises résistantes, cette rencontre avec Geneviève de Gaulle est aussi finalement la confirmation qu'elles avaient raison. Et surtout, c'est une consolation parce qu'elles ne savent pas quel va être leur sort. Peut-être certaines vont mourir, certaines d'ailleurs vont mourir du fait de leur internement et de leur déportation. Mais au moins, elles savent que le combat pour lequel elles étaient prêtes à sacrifier leur vie est un combat utile, puisqu'il y a quelqu'un de très valable, qui est donc l'oncle de Geneviève de Gaulle. Elle parle de son oncle, elle décrit sa personnalité, elle décrit ses engagements. Et celui qui n'était qu'un nom, au départ, à la suite de cet appel du 18 juin, devient du coup, pour Germaine Tillion, finalement, une personnalité avec laquelle elle a un lien proche à travers Geneviève de Gaulle. Et ce combat, il va donc être poursuivi, et de toute évidence, il va l'emporter.
Oui. Lorraine Demeau, pendant ces mois passés à Ravensbrück, Germaine Tillion va essayer, parce qu'elle est comme ça, d'être active, d'agir, et elle va même créer une opérette.
Alors ça, c'est une des œuvres les plus étonnantes, c'est son opérette. Elle écrit « On est au cœur de l'hiver 1944 », c'est pour redonner du courage à ses camarades de camp. Elle s'isole un peu, elle est protégée, elle a réussi à avoir un peu de papier, un petit stylo. Tout ça, évidemment, la met en danger. Hein. C'est une activité strictement interdite. C'est dans la clandestinité qu'elle écrit son opérette. Et elle écrit cette opérette qui est une sorte de miroir du camp comme si, à travers une revue, un ethnologue découvre le monde concentrationnaire, ces femmes internées, et présente ici cette population exotique des internés. Et ça fait référence à une grande culture, et surtout, c'est imprégné de musique, de chants connus, des opérettes d'Offenbach ou autres. Et ça, c'est une œuvre extraordinaire.
Je vous présente Ménette. J'ai de faire fut pas arraché de 15 jours. Qu'est-ce que tu faisais dans ta vie antérieure?
J'étais présidente d'une filiale de la société protectrice des animaux pour la libération des serins.
Et c'est pour cela que tu es ici.
Tout à fait entre nous.
Lorraine Demoux, à son retour à Paris en juillet 1945, Germaine Tillion n'est plus tout à fait la même femme, évidemment.
Alors son retour en 1945 est un retour très douloureux, parce qu'elle rentre sans sa mère, elle rentre sans sa thèse. Bon, les deux ne sont pas, on ne peut pas les mettre au même niveau, ce deuil, mais c'est quand même un double deuil. Elle n'est pas toute jeune, donc y a une partie de sa vie, du coup, importante, qui a été effacée par l'épreuve de la guerre. Et puis, très vite, va y avoir la responsabilité d'être la seule chef survivante de cette nébuleuse du réseau du Musée de l'Homme. Et donc, elle va se consacrer pleinement à faire reconnaître les activités de résistants et de résistantes de ses camarades morts pendant la guerre, et aussi ainsi de sauver leur mémoire, mais aussi de pouvoir aider les familles, hein, de faire reconnaître que ce sont des combats qui peuvent apporter la reconnaissance de ceux qui sont morts au combat, morts pour la France. Donc il y a tout ce travail qu'on appelle le travail d'homologation du réseau qu'elle fait officiellement et qui est un énorme travail, qui est un travail colossal qui va lui prendre plusieurs années et qui est aussi du coup un travail où elle est replongée dans les douleurs de la guerre.
Alors il faut préciser qu'elle a écrit après sur Ravensbrück, je crois même qu'elle a suivi le procès des responsables du camp de Ravensbrück après la guerre, non ?
Après la guerre, elle va être envoyée, elle est désignée par les deux associations des anciennes de Ravensbrück pour les représenter. Alors elle ne va pas intervenir comme témoin dans le procès, mais elle a l'autorisation d'assister en procès. Elle tient les notes de ce procès de Ravensbrück qui se tient à Hambourg. Et là aussi, c'est une manière de veiller à ce que la justice soit faite. Et elle va écrire des comptes rendus pour le Voix et Visage, qui est la revue de la DIR, l'association des déportés et internés de la Résistance.
Et puis donc elle va reprendre, vaille que vaille, son travail d'enseignante, de chercheuse, d'ethnologue, et elle va retrouver l'Algérie.
Alors le retour en Algérie, il se fait d'une double façon. D'abord, malheureusement, par la tragédie de la guerre.
Le début de la guerre d'Algérie en 1954.
Ouais. Et c'est à ce moment-là que Louis Massignon, parce qu'elle s'est vraiment consacrée d'abord à tout ce travail d'homologation du réseau, et Louis Massignon lui dit « Mais avez-vous oublié l'Algérie ?» Et il lui envoie coup sur coup au moment des événements de la Toussaint Rouge, il lui envoie coup sur coup des pneumatiques, une lettre, il l'appelle pour lui dire il faut faire quelque chose, la Germaine, est-ce que quelqu'un vous a contacté, puisque c'est vous la spécialiste.
Et alors, Il se trouve, Lorraine Demoux, que les premiers affrontements ont lieu dans l'Aurès, dans les Aurès, là où elle avait travaillé avec les Chaouias.
Il se trouve que les premiers affrontements, les premiers combats militaires menés par le FLN, mais du coup aussi les premiers drames liés à ces combats, notamment les morts dans un autocar, eh bien tout ça, elle connaît ce terrain parfaitement. C'est Batna, c'est Harris, c'est son terrain. Elle connaît les individus. Elle est donc oui, c'est exactement là où elle a fait son travail d'ethnologue. Et donc, assez curieusement, elle va se retrouver chargée d'une mission d'observation pour être sûre que les populations civiles ne soient pas victimes d'une répression injuste par les forces françaises. Et donc, elle obtient cette mission et elle part à l'hiver 54-55 dans l'Aurès. Et là, ça va être le choc parce qu'elle retrouve une Algérie très dégradée.
Et donc, elle va essayer à la fois d'être la patriote qu'elle est dans l'âme, mais aussi d'aider la population, surtout.
Alors, elle essaye d'aider, d'être au service, elle disait, hein, une ethnologue, elle conçoit son rôle un peu comme une avocate. C'est l'avocat de cette population qu'elle connaît bien. Elle trouve que la population s'est appauvrie, que l'administration coloniale... En fait, elle prend conscience des erreurs de l'administration coloniale d'une façon très précise, hein, en menant des enquêtes. C'est une population qui a été un peu déplacée, qui a du mal à vivre. Et puis, elle prend conscience aussi que la répression face à ce mouvement d'indépendance qui est en train de prendre les armes est tout de suite une répression assez massive, avec peu de nuances. On interne, les détenus politiques sont nombreux, et elle ne veut surtout pas que son propre pays commette des crimes et se retrouve en situation justement d'être ce qu'a été pour elle le comble du mal, ce qu'avait été le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Elle va fournir des notes même au général de Gaulle en 1958 et même avant sur la situation de l'Algérie.
Alors, elle est très certainement une des personnes qui fournit à De Gaulle des informations qui vont permettre aussi au général De Gaulle d'évoluer sur la question algérienne. Elle n'est pas la seule, mais elle est une de celles qu'il peut entendre et écouter. Les notes qu'elle lui fournit, parce que pendant toute cette période, 1954-1958, elle est vraiment active en Algérie. Elle va même avoir une mission. Elle va mettre en place des centres sociaux dans les années à partir de 1955. Ces centres sociaux, c'est un projet qu'elle conçoit pour essayer de trouver des solutions justement pour la population algérienne. C'est une des œuvres dont elle était la plus fière. Mais aussi, du coup, elle est à nouveau sur place. Et sur place, elle est en mesure de comprendre en fait la difficulté de l'administration à comprendre le combat des Algériens. Elle peut fournir du coup un travail un regard très mesuré sur les événements.
Sur ces centres sociaux, je vous propose d'écouter un texte lu de Charmaine Tillon sur la fierté qu'elle a eue à créer ces institutions. Il y en a eu 200, plus de 200. Malheureusement, en 62, à l'indépendance, ils ont été fermés. Écoutons cette lecture d'un texte de Charmaine Tillon.
De toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'avoir créé les centres sociaux en Algérie. D'autres choses que j'ai faites étaient aussi nécessaires et justes, mais le bien et le mal étaient mélangés, comme dans tout combat. Les centres sociaux en Algérie, c'était œuvrer pour le bien, un bien qui n'était pas en opposition avec quelque chose, un bien créateur sans être destructeur.
Suite de ce numéro d'idées, suite et fin de ce numéro d'idées consacré à Charmaine Tillon, donc cette fierté d'avoir créé ces centres sociaux. Et on peut dire que dans la deuxième partie de sa vie, Lorraine Demeaux, Charmaine Tillon va être une femme engagée contre le totalitarisme en général. D'ailleurs, parce qu'elle a eu beaucoup, beaucoup d'actions de dénonciation du goulag, de la situation en URSS, d'ailleurs ce qui lui a valu l'inimitié de ses amis communistes.
Alors, la dénonciation du goulag, pour elle, c'est une évidence. C'est-à-dire que quand il y a cette proposition faite par David Rousset de créer une commission internationale de lutte contre le régime concentrationnaire, elle y répond de façon positive. Et c'est quand même très tôt après la guerre, et ce qui fait que les communistes, qui avaient aussi, à partir d'un certain moment, officiellement soutenu la résistance et payé aussi un lourd tribut, avec des victimes dans leur rang, se sont retrouvés ici, pour certains, face à une difficulté qui était celle du mensonge idéologique, l'idée qu'on pouvait être à la fois souscrire à l'idéal communiste, mais qu'il fallait quand même observer que des crimes étaient commis au nom de cet idéal. Ce mensonge idéologique, pour Germaine Tillion, il est clair qu'il faut le dénoncer. Elle avait un très vif sens de la vérité. Et donc, elle va en effet être sensible. Cette sensibilité aussi aux crimes du communisme lui vient de son amitié avec Margaret Bubernemann, qui est une détenue de Ravensbrück, mais qui avait la particularité, Margaret Bubernemann, d'avoir été à la fois détenue dans le goulag de Staline, comme avant le pacte germano-soviétique, alors qu'avec son mari, qui était un communiste allemand, il s'était réfugié en URSS, mais ils avaient été arrêtés et internés par Staline, et son mari fusillé. Et livré à la faveur du pacte germano-soviétique à Hitler. Et donc, du coup, ensuite, elle était une des vieilles détenues de Ravensbrück. Et c'est Margaret Bubernemann qui avait identifié Germaine Tillion comme étant quelqu'un à qui elle pouvait confier cette double expérience, ne sachant pas si elle-même allait survivre. Finalement, elle a survécu, mais avec cette idée qu'on était face à quelque chose de plus grave. Et à ce moment-là, il y avait des similitudes dont peu de gens étaient conscients, que dans le régime soviétique, il y a ce totalitarisme qui broie l'individu, ce mensonge qui était en fait aussi présent dans le nazisme.
Germaine Tillion, décidément, on a commencé l'émission avec ça, on termine avec cette évidence, une femme du XXe siècle, avec tout ce que ça suppose d'horreur.
Oui, c'est vraiment une femme de ce long XXe siècle. Hein. C'est une femme au cœur de ce siècle, qui est un siècle de terrible, de terreur, mais qui est aussi un siècle pour lequel, finalement, à l'intérieur duquel, des individus comme elle ont apporté leur lumière.
Et justement, Lorraine Demeaux, pour terminer, il faut lire, par exemple, il était une fois l'ethnographie, un de ses livres, publié en 2000. Il faut lire Le Harem et ses cousins, publié en 66. Tous ces livres sont publiés en livre de poche aujourd'hui. Pour celles et ceux qui nous ont écoutés et qui ne connaissaient pas Germaine Tillion, que faut-il retenir? Quel enseignement peut-elle nous donner d'enseignement de vie? Le courage, la lucidité, l'engagement?
Alors, l'enseignement, je dirais, c'est ça. C'est l'idée que chaque individu est porteur à son niveau d'une capacité à agir. Elle a ce courage intellectuel, mais elle était incroyablement active. Pendant la période de la guerre d'Algérie, les actions qu'elle mène pour aider les prisonniers, faire en sorte que leur régime carcéral soit adouci. Elle va même, par exemple, c'est elle qui va mettre en place la possibilité de faire des études en prison. Donc, en fait, elle a une inventivité.
Oui, c'est ça. Elle a fait un court passage dans un cabinet d'un ministre de l'Éducation au début de la Ve République. Et grâce à elle, les prisonniers peuvent suivre des études.
Oui, elle était très fière aussi de cette dimension-là. C'est son inventivité. Elle est inventive, elle est très humaine et elle ne baisse jamais les bras. Ce n'est pas parce que les choses paraissent impossibles à faire, qu'il y a une lourdeur administrative ou une terreur et une menace, qu'on n'agit pas.
Merci Lorraine Demeaux de nous avoir proposé cette biographie de Germaine Tillion, Une certaine idée de la résistance, un livre publié aux éditions Perrin.
Merci.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Retrouvez-nous quand vous le souhaitez sur l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Par exemple, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à cette même heure pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité internationale.
Mmh.